On est-tu en ligne, les gars? Est-ce qu'on est en ligne, savez-vous?
Je sais pas, faut regarder le chat là, je me suis pas
On est-tu en
connecté.
ligne? Je pense qu'on est en ligne. Hey, regarde ça, j'ai même la petite toune. Hey, bonjour tout le monde, mes petites chouclaques, et bienvenue à Balado Ludique, un balado entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 13, épisode 7, la réédition de jeu. Je suis Vincent et serai votre animateur pour ce soir, ce qui donnera la chance à mes collègues et amis de parler davantage pendant que je serai sous le silence. Je suis en compagnie de nul autre que Steve, le François d'Assise du jeu grâce à son temple du Meeple, ainsi que le prophète PP7 Pierre Poisson. Bonjour les gars, bonjour, bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, toi, Vincent.
Ah, ça va, comme toujours, quand l'appétit va, tout va, quand la santé, tu sais, je vais au Amir des fois, puis le gars, il me dit toujours,
Est-ce que
quand la
c'est bon de
santé,
jamais?
oui, c'est vraiment bon, il me dit, quand la santé va, tout va, puis ça me fait tout le temps réfléchir, des fois, on est comme un petit peu en train de se dire, ah, si j'avais plus de ci, si j'avais plus de ça, mais au final, le gars du Amir, il a toujours raison, fait
C'est sûr,
que,
il te donne des grosses gousses d'ail dans ton
c'est ça,
sandwich.
et toi Pierre, comment ça se passe par chez vous?
Ça se passe de façon spirituelle, si je me fie en pleine matière que tu as faite avec l'émission, le temple et puis le prophète.
Ben oui,
Ah ouais.
ben c'est ça exactement. Fait que, ben justement, les gars, justement, d'entrer en matière, qu'est-ce que vous avez cette semaine de nouveau à nous raconter avant qu'on tombe directement dans le vif du sujet, les rééditions? Peut-être
Tu
Pierre,
peux
tu peux
commencer,
commencer.
Pierre?
Ouais, Pierre, vas-y donc, as-tu quelque chose à nous raconter?
J'ai l'occasion d'essayer un jeu qui vient tout juste d'être livré dans sa version Kickstarter. Un jeu d'un éditeur grec par des auteurs allemands, dont c'est le deuxième jeu. Le jeu s'appelle Peste.
Ah oui, ça avait l'air bon. Ben, ça, le thème m'intéressait, moi.
Ouais, ben, j'ai l'impression que le jeu va s'est vendu beaucoup à cause du thème, parce que forcément que ça laisse pas personne indifférent. Le visuel de la boîte intrigue beaucoup avec sa grande noirceur et son visage de docteur qui lutte contre la peste au 16e siècle en Europe, avec les fameux masques au
Ouais.
nez pointu. Peut-être que vous avez déjà vu.
Ouais, moi j'associe beaucoup ça aux jeux vidéo à Assassin's Creed que j'avais. C'était les fameux médecins, hein, que c'est très représentatif de l'époque. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un parallèle à faire avec ça. Le jeu est édité par Arkana Games, donc un éditeur grec, comme je disais, qui a fait quelques jeux dans le passé, mais qui sont peu connus d'ici, je dirais, du côté de l'Amérique du Nord. En Europe, ils sont un peu plus connus, je dirais, le plus connu de leur jeu. Il s'appelle Magnaroma, qui est sorti il y a 2 ans. Mais qui n'a pas été un succès retentissant, mais qui a quand même fait parler. Peste est un jeu qui va durer à peu près 2 heures pour une partie, peut-être 2 heures et demie pour une partie à 4 ou 5 joueurs. À la base, ça joue jusqu'à 4, avec une extension, ça peut jouer jusqu'à 5, je pense. Ou à moins que ça puisse jouer jusqu'à 5 à la base. Un matériel quand même assez digne des jeux qu'on a aujourd'hui. C'est un jeu qui va donner l'impression de jouer à la fois, et là, tiens-toi bien, Vincent. On a l'impression de jouer à ce jeu-là avec l'impression qu'on joue à un mélange de Sight et de Pandémie. Et puis, c'est quand même bien rendu. J'avais un peu d'appréhension au départ avant de jouer à ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était quand même pas pire. Évidemment, pour ceux qui adorent Sight puis qui adorent Pandémie, ils vont trouver leur compte là-dedans. C'est un jeu quand même qui a une complexité qui est comparable à pas mal l'euro standard que que vous allez jouer comme Ark Nova ou comme Terraforming Mars. Donc, vous allez trouver ça un peu imposant au début, mais il y a quand même des choses intéressantes dans le jeu qui peut finir par accrocher. Un système de placement d'ouvriers qui va rappeler le jeu Wakanda. avec une espèce de matrice où on place un ouvrier qui va faire deux actions à la fois au croisement de la matrice. On va avoir aussi un système qui va rappeler site, évidemment, parce qu'on va libérer des bâtiments qui vont servir à faire des ressources qu'on va placer sur un plateau. Et on a aussi un système qui rappelle Pandémie, parce que le plateau est un plateau d'une map fictive, je pense, avec des villes qui vont recevoir des malades pestiférés. Et ces malades pestiférés-là sont un peu comme les cubes de Pandémie. S'il y en a plus que quatre qui apparaissent, ça fait un effet de cascade sur les villes d'à côté. Et ça va détruire les bâtiments qui ont été construits dans les villes où ils ont été reçus.
Mais c'est-tu coop ou compétitif?
C'est compétitif. Mais ceci dit, ce n'est pas une compétitivité très agressive. C'est une interaction qui est là, mais disons qu'on a l'impression que c'est plus interactif que ça l'est vraiment. L'interaction dans ce jeu-là est vraiment au niveau de je vais aller chercher la chose avant toi. Où je vais être majoritaire pour faire un décompte de points dans un centre du plateau qui va permettre de faire des petits bonus. Mais à part de ça, l'interaction, je dirais que ça se limite à ça. Le système de gestion de malades est vraiment ça qui m'a la chose qui m'a le plus convaincu dans ce jeu-là. Je dirais pas convaincu d'acheter le jeu, mais convaincu que c'est un jeu qui mérite d'être joué. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans la façon qu'on va chercher le malade. Comparativement à la pandémie, quand on arrive dans une ville, là-dedans, on ne va pas se débarrasser des malades comme on se débarrasse des cubes de virus dans la pandémie. On va plutôt les prendre et les entreposer sur notre plateau. Et là, il faut les guérir ensuite. Mais tant qu'on ne les a pas guéris, on a nos pattes. Parce qu'on a des espaces de réservés pour les placer. Puis si on ramasse encore des malades et que notre espace pour les placer est rempli, bon, là, il faut les placer dans d'autres espaces sur notre plateau. Et ces espaces-là vont nous empêcher de faire nos pouvoirs ou nos capacités à pleine profusion s'ils sont occupés. Par exemple, si on place ça dans un espace qui correspond à la construction, ben, on va devoir construire avec une ressource supplémentaire, avec un malade qui est dans ce cas-là. Donc, il faut se dépêcher de guérir en même temps qu'on ramasse les malades. Et c'est pas facile parce que guérir, évidemment, ça prend des ressources de guérison. Et ça, ben, il n'y en a pas à profusion. Il faut aller les chercher. Puis il faut construire des choses pour aller chercher ces ressources-là. Donc, il y avait vraiment une espèce de système de roulement de ressources et d'investissement. Et ça, c'est sans compter le fait que les malades guéris, ça, c'est l'autre chose intéressante du jeu. Les malades guéris sont sur une piste qui va être exponentielle en point de victoire. Donc, on va les placer sur une piste et c'est vraiment ça le nerf de la guerre dans le jeu. Si vous avez plein de malades guéris à la fin de la partie, vous allez faire une foule de points. Mais vous allez être tenté d'aller les prendre parce que les malades guéris, ils vous servent après ça d'ouvriers pour activer vos bâtiments. Donc, voulez-vous les prendre ou vous voulez les laisser là pour faire des points? Et c'est ça qui est le dilemme.
Eh bien, ça a l'air très intéressant, même si c'est pas nécessairement mon style. Là, écoute, ça semble être prometteur. Ben, merci beaucoup, Pierre. Très apprécié. Puis tu as joué dernièrement. Est-ce que ça, c'est censé bientôt passer? Est-ce que c'est censé tomber en boutique bientôt ou
Alors, je ne sais pas s'il va être en boutique bientôt parce que, en fait, il devrait l'être dans certaines boutiques qui se sont engagées dans la campagne de Kickstarter pour
Oui.
avoir des exemplaires. Oui, en ce sens-là, il commence déjà à arriver dans les boutiques européennes. Il va probablement finir par arriver dans les boutiques nord-américaines dans un mois. Alors, au Québec, je ne sais pas.
OK.
Peut-être certaines boutiques québécoises branchées vont peut-être l'avoir, là.
Ben écoute, on verra à ce moment-là. Ben merci Pierre, très apprécié. Et toi, Steve, des
Cette
nouvelles?
semaine, j'ai pas beaucoup joué. J'ai plus préparé un proto physique. C'est enfin que j'ai eu un proto que je préparais beaucoup. C'est un Eurogame, mais que ça. Je trouve que ça prend beaucoup de temps à tester. Mais j'ai le Protofest. Hein, je vais faire une petite publicité pour le Protofest qui arrive le 16 mars prochain à Sainte-Julie, que c'est. Donc, si vous voulez là, c'est. Si vous voulez tester des protos, c'est gratuit pour vous. Pour ceux qui veulent présenter des protos, ça coûte un petit peu d'argent. J'avais comme objectif de présenter mon fameux euro, mais ça prenait tellement de tests que je me suis dit, ah, c'est pas le temps, mais j'aurais aimé ça avoir l'expérience de quelqu'un qui prépare un jeu et avoir des feedbacks. Que je me suis mis à préparer un jeu, puis j'ai eu un petit trip quand même je dirais, dans la fameuse époque du cégep qu'on appelle ici au Québec et juste après l'école secondaire, des fameux trick-taking games. Je trouve que c'est des jeux qu'on voit beaucoup, puis c'est comme à la mode en plus, surtout ces temps-ci. Mais on cherche toujours des petits twists différents. Je vais vous parler vite vite du proto justement que j'ai fait et que j'ai eu des idées. C'est tout simplement un jeu de 52 cartes, comme qu'on les voit. Par contre, les chiffres se situent entre moins 2 et 10 dans quatre couleurs. Il y a une couleur qui est toujours à l'atout. La petite twist, ben les petits twists que j'ai mis du jeu, c'est que la première carte que vous allez jouer va déterminer une couleur que vous allez faire des points d'un chiffre égal à sa valeur. Donc, si vous jouez un 5 bleu, le gagnant de ce trick-là, dans le fond, de cette levée-là, va gagner 5 points dans la rangée, dans la traque de points bleus. Le but étant d'avoir. Il y a trois couleurs. L'atout ne compte pas dans. Il n'y a pas de traque de couleurs pour l'atout. Mais les trois autres couleurs, vous allez devoir être entre 15 et 20. Si vous dépassez cette valeur-là, vous recommencez à zéro. C'est au maximum 4 manches. Sinon, au bout de 4 manches, c'est celui qui a le plus de marqueurs entre 15 et 20. Donc, les petits twists du jeu, justement, c'est qu'on va jouer, comme je vous dis, le chiffre, peut-être un chiffre négatif aussi pour faire perdre des points à un adversaire, mais peut-être vers la fin de la partie, on veut essayer de rester dans notre range de 15 à 20 sans vouloir déborder, puis qu'on va peut-être garder nos négatifs pour pouvoir les jouer et que plus personne n'est capable de fournir ces couleurs-là. Il y a ce twist-là. Je rajoute une autre twist, c'est que l'endos de toutes les cartes, vous voyez les chiffres de tout le monde. Vous voyez pas la couleur, vous voyez les chiffres de tout le monde. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai pensé à ces petits twists-là, puis je trouvais ça deux petits twists originales parce que les tracks de points. C'est encore le système de points de Tigre et Euphrate que j'ai adoré lorsque je l'avais joué avec toi, Vincent. Mais là, je mets une petite twist de jeu de levée où est-ce qu'il faut pousser sa chance, il faut savoir quand perdre justement pour pas dépasser un certain nombre pour sinon revenir à zéro, un peu comme qu'on voit dans le jeu de Molki là, des quilles finlandaises. Je vais essayer de présenter ça, je vais essayer quand même de le tester avant d'aller le présenter et avant de me faire ramasser par tout le monde là-bas, comme on se fait toujours ramasser par tout le monde. Donc, des petites idées que je vais peut-être présenter à une compagnie de locomotives, là, à un moment donné. Ils reviennent à Cannes, là, dernièrement, qui ont fait un
Ouais,
petit
c'est ça,
voyage. De
c'est
toute
ça.
manière, ils vont nous revenir avec leur voyage de Cannes la semaine prochaine. J'ai bien hâte d'écouter leur petit podcast à Simon Antoine.
Ben oui, puis en fait, c'est une belle opportunité justement, ce festival de prototypes-là, de pouvoir recevoir du feedback, là. Des fois, ça peut être rough, oui, mais en même temps, je veux dire, ça fait partie du travail d'itération bien normal.
Selon moi, justement, en testant avec d'autres personnes qui présentent des jeux, c'est qu'ils ont aussi de l'expérience dans ça, donc vont comprendre plus vite les mécaniques, ils vont avoir possiblement des conseils plus efficaces et rapidement.
Oui, tout à fait. Les boys, ben écoute, moi je vais être très 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 rapide, mais en même temps, ça va faire une belle transition vers notre sujet d'aujourd'hui, hein. Ça fait quand même 14 minutes qu'on est en ligne, puis on n'a toujours pas commencé à parler de réédition. Ben, la nouvelle que moi j'avais à vous partager, c'est celle d'un jeu qui se nomme Lifeboats, qui a été produit en 93. Une compagnie de Hong Kong va rééditer ce jeu-là avec, en fait, le même thème, la même dynamique. Et étonnamment, ben, ils gardent, en fait, la dynamique de jeu, même qu'ils vont rajouter un septième joueur, donc encore plus de chaos et quelques petits ajouts là, pour pimenter le tout. Ce qui nous amène justement à parler de notre sujet, les rééditions. Donc, dans le monde du jeu de société, c'est quelque chose qu'on voit de façon récurrente, des jeux qui vont recevoir une seconde édition, une troisième édition parfois même. Et ces jeux-là sont habituellement des jeux qui ont parfois on n'a pas du tout marqué le monde du jeu, mais habituellement, il y a une saveur particulière, puis assez unique, qui a le luxe de pouvoir se voir recevoir une nouvelle peau, hein, comme un serpent. Hein, on enlève cette vieille peau-là, puis on met une nouvelle peau. Donc, messieurs, la parole est à vous, en fait, par rapport aux rééditions. Est-ce que quelqu'un, justement, aurait un exemple à me donner d'une réédition? Et qu'est-ce qu'on peut rajouter ou qu'est-ce qu'on peut retirer, épurer dans une réédition?
Oh mon Dieu, les rééditions, il y en a quand même eu depuis des lustres. Je pense que depuis que les jeux de société ont commencé dans leur industrie, on a vu des rééditions. Ça fait déjà au moins 100 ans qu'on voit ça. Et puis, de là à voir que une réédition, c'est automatiquement quelque chose qui va être amélioré, je ne peux pas te le dire. Même que des fois, la version épurée, je pense, est meilleure que la version rééditée. C'est plutôt rare qu'on va voir une réédition qui va épurer un jeu, parce que habituellement, un éditeur va penser qu'il manquait des choses aux jeux originales pour en faire un meilleur jeu. Surtout à l'époque où on est. À l'époque où on a l'impression que le mot d'ordre, c'est rejouabilité. Alors, les éditeurs veulent toujours essayer d'en mettre plus qu'il faut dans une boîte. Je dirais par contre que des exemples de ça où des éditeurs se sont trompés pour rééditer un jeu, je vais parler par exemple de Amigo. Un éditeur allemand qui a quand même pas mal de chemin, qui édite des jeux depuis au moins 20 ans, dont le plus gros succès, je pense, est un jeu de M. Rosenberg avant qu'il tombe dans la marmite des jeux de placement d'ouvriers. Rosenberg était connu pour un jeu de cartes qui est encore à vendre aujourd'hui, qui a été édité en 97, je pense, pour la première fois. Il s'appelle Bonanza.
Bonanza.
Jeu d'échange de cartes avec où on échange des bines ou des fèves pour nos auditeurs de France. Amigo a eu la vraiment bonne idée de rééditer un jeu de 86 qui avait gagné le Spiel des CRS cette année, le premier Spiel des CRS de Wolfgang Kramer, le premier de ses cinq. Ça s'appelait Hemlish & Co. C'est un jeu qui fait. C'est un jeu archi important dans le monde des jeux de société euro parce qu'il a été le premier d'une série de choses qu'on voit maintenant dans les euros. Mais la beauté de ce jeu-là, c'est qu'il était assez épuré. C'est un jeu très familial, où on a des espions qui se promènent autour d'une piste. Et c'est un jeu de bluff, ouais, avec une identité secrète. On essaye de dissimuler notre identité secrète parce qu'on peut contrôler tous les pions. Et on veut que notre couleur secrète fasse le plus de points. On veut qu'elle atteigne le seuil de 42 points avant tout le monde. Ce que Amigo a fait, c'est qu'il a simplement ajouter des cartes de pouvoirs spéciaux qui pouvaient être utilisées dans le jeu, mais qui ne sont pas dans les règles de base. C'est des règles optionnelles. Donc, heureusement, il a gardé le jeu intact. Il a simplement proposé des ajouts. C'est pas une réédition ratée, mais disons que j'ai l'impression qu'Amigo s'est un peu tiré dans le pied sur le matériel que ça lui a coûté pour faire la réédition du jeu, parce qu'il aurait pu facilement refaire le jeu simplement avec des plus belles pièces, comme c'est le cas d'ailleurs, avec un tableau, un plateau plus beau aussi. Mais au lieu de rajouter, payer un budget pour avoir plus de cartes pour faire plus d'effets, ben, il aurait pu simplement se contenter de faire le même jeu. Et ça aurait été parfait.
J'apporte un point aussi. Sinon, t'sais, on parle de réédition, mais il y a aussi le terme réimplémentation. Où est-ce que vous... Est-ce que c'est un peu la même chose selon votre description?
Ouais, ben ça, j'imagine que tu dois tenir ça de la base Board Game Geek qui s'amuse à faire ça des fois.
Ouais.
Non, je pense pas que c'est la même chose. La réimplémentation, c'est plutôt le processus d'aller chercher... c'est souvent, en fait, le même auteur qui va être associé à une réimplémentation. Mais des fois, ça peut être aussi un auteur qui va aller consulter l'auteur du jeu original pour en faire un nouveau jeu. L'idée de la réimplantation, c'est simplement de prendre le squelette du jeu original et d'en faire un nouveau jeu. Donc, on pourrait, par exemple, la réimplémentation de Terraforming Mars avec Terraforming Mars Arise, c'est pas mal un bon exemple. Parce
Non,
que...
lorsqu'on transforme des oiseaux en dragons, dernièrement, question d'aller chercher un petit peu d'argent dans les poches de tout le monde. Il y a des c'est dans Wormspan que je faisais référence, bien sûr, ici. On dirait que je vois des certaines réimplémentations comme justement des petits. T'sais, parce que j'ai de l'air à distinguer les deux, parce qu'on parle de réédition parfois pour corriger des règles, changer des choses. Puis des fois, on change. Jusqu'à quel point on peut changer des choses pour considérer ça une réédition?
Je pense que en fait, ta question est légitime. Quand je vous ai proposé en fait réédition, moi j'avais les deux termes là. Donc pour moi, en fait, oui, il y a une distinction à faire, mais en même temps, où est la ligne? Souvent, ben, elle est déterminée par les éditeurs tout simplement. Il y a plusieurs jeux qui vont avoir une deuxième édition, qui vont avoir une réimplémentation là. Je pense par exemple à des jeux comme Pax Pamir, où est-ce qu'on va regarder la première itération du jeu qui est complètement différente de la deuxième. Et pourtant, la compagnie dit que c'est la deuxième édition. Donc, en tant que tel, pour moi, ça tombe dans une réédition, sauf que Board Game Geek va le considérer comme étant une réimplémentation. Donc là, en fait, déjà là, on a comme un chevauchement qui se crée. Puis encore là, ben, il y a certains titres là, qui, pour moi, je vais donner l'exemple là, d'Eclipse, où est-ce que, il y a eu des changements qui ont été faits en effet. Est-ce que ces changements-là, en fait, sont majeurs? Pas tout à fait. Ce sont des changements qui auraient pu être faits, qui auraient pu être corrigés avec une espèce d'update pack. Mais à cause du matériel, à cause du désir de vouloir transformer l'expérience au niveau composante, ils ont décidé de sortir une nouvelle boîte sans upgrade pack, je dirais, pour les détenteurs de la première édition. Et encore là, pourtant, tu pourrais pratiquement appliquer les règles, les changements de la deuxième édition pour la première. Ça n'aurait pas vraiment de distinction. Il y aurait peut-être des petits trucs à corriger sur les tuiles, mais ce n'est pas des choses majeures. Puis, il y a d'autres moments où est-ce que c'est ça. Il y a vraiment, c'est le jour et la nuit entre deux éditions là, en tant que telles. Puis, Pierre, tu parlais justement du fait qu'on vient corriger certaines choses ou on vient mettre davantage de comment je peux dire, d'enrobage, où on vient rajouter certaines choses. Il y a certains moments aussi où est-ce qu'on va enlever, en fait, certaines couches. Je pense que ça vaut quand même la peine de mentionner certains jeux. J'ai mentionné déjà Pax Pamir qui fait ça, mais aussi, moi, une réédition qui me vient en tête, c'est A Study in Emerald, où est-ce que tu as la première édition qui est vraiment, vraiment consistante, qui est vraiment très... qui est bien, bien, bien garnie. Puis, on va enlever en fait toutes les garnitures pour donner une espèce de pizza un peu all dress, là, où est-ce que tout le monde va apprécier. Mais on vient en fait retirer beaucoup, beaucoup de saveur à ce jeu-là. Donc, pour moi, il y a comme un chevauchement justement entre les deux. Puis, ça va vraiment être déterminé par probablement l'éditeur. Là. Puis, surtout, comment est-ce que lui veut traiter la situation sur Board Game Geek. Puis encore là, on peut changer. Tu sais, quand on parle de réimplémentation, c'est complètement changement de thème, changement de titre, on peaufine le tout.
Oui. Ça, je trouve que c'est un bon exemple d'une bonne réimplémentation. Parce que tu sais, je parle des jeux comme Glenmore Chronicle 2, qui est exactement le même thème, qui ont juste rajouté un petit peu plus de viande autour de l'os, comme qu'on demande. Ou tu sais, t'as des rééditions un peu comme... ou des big box, on pourrait dire. T'sais, Anissa Totonica qui revive avec ses extensions, mais tout à l'intérieur. On a des simplifications ou des... Tu sais, la fameuse nouvelle version de Castle of Burgundy, la version deluxe. Est-ce que c'est une nouvelle édition ou c'est juste une version deluxe? Comme des termes un peu différents. C'est comme il y a l'inverse qui arrive. Il y a Foundation of Metropolis qui va sortir prochainement, qui est Foundation of Rome qui coûte 200$, mais qui m'en coûtait 50 là, parce que c'est des tuiles, mais ça reste le même jeu. Donc, c'est comme plein de petits termes, variations. On parle tous, je pense qu'on est tous dans le même jargon, on est tous dans le même puits de jour, je crois, quand même. Sinon, je pourrais diriger ma question un peu ailleurs. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les rééditions? Des upgrades, des changements de thème, un rehaussement de difficulté du jeu, une simplification du jeu? Qu'est-ce que vous avez tendance à plus aimer?
C'est très variable. C'est vraiment... je pense que ça va dépendre de la nature du jeu. Toujours le bienvenu d'avoir un joueur de plus quand on veut rééditer un joueur de négociation. Un jeu de négociation, parce que bon, plus il y a de jeu, plus il y a de monde autour de la table, plus ça fait d'action dans la négociation.
Parce qu'il y a d'autres jeux qui rajoutent un cinquième joueur, c'est pas une bonne idée non plus.
Non, exactement. c'est vrai. Il y a des jeux vraiment qui sont pas faits pour avoir ça. Mais règle générale, quand il y a de la négociation ou du bluff, ou des enchères, si on rajoute un joueur, c'est vraiment intéressant.
Sinon, personnellement, aussi, pendant que Vincent y pense, moi j'ai tendance à dire que j'aime les rééditions un peu, ou les réimplémentations, où est-ce qu'ils vont rajouter des petits modules, tu sais, comme que je disais, Glenmore 2 Chronicles, j'aime beaucoup ça, qu'il y a plein de petits modules qui sont en fait des petites extensions qui vont complexifier légèrement le jeu, mais on va le complexifier à petite dose comme on le souhaite. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé de ce jeu-là comme style de réédition.
En fait, moi, pour être franc, j'ai de la difficulté à voir comment est-ce qu'une réédition vient... Qu'est-ce que je vois dans une réédition qui est satisfaisant. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas nécessairement rencontré des rééditions, là, du moins dans mon expérience, qui ont été marquantes pour moi. Je pense par contre que le travail de Phil Eklund, qui souvent va être réédité parce que il est dégueulasse, Phil Eklund, pour écrire des règles. Puis ses premiers jeux ont beaucoup de potentiel. Et dans les années, en fait, à partir de 2010-2012, je pense, beaucoup de ces jeux ont été réédités chez Ion Design Games et ils ont fait une job sublime de rééditer puis de venir, en fait, trancher, couper au peigne fin certains coins là, qui avaient été un petit peu... qui avaient été un peu laissés aller par Phil Eklund. Puis si vous ne connaissez pas le designer Phil Eklund, c'est un gars que... c'est un scientifique, c'est un rocket scientist, là, et il produit des jeux à partir de certains concepts scientifiques. Donc, pour lui, ce qui est important, c'est vraiment le concept scientifique avant tout. Il va trouver une mécanique qui va s'intégrer là-dedans. Et si ça crée un débalancement, ça ne fait pas un pli du tout. Et des fois, ça peut créer certaines encoches, là, si je peux me permettre de le dire comme ça. Puis Iron Game Design vient vraiment peaufiner, en fait, la plupart, sinon pas mal tout son travail en général. Donc ça, c'est intéressant, mais encore là, il y a certains jeux où est-ce que moi, j'aurais pas de problème à jouer à ces anciennes éditions-là, simplement parce que c'est interpellant de voir par quoi qui est passé. Puis il y a d'autres moments où est-ce que les rééditions m'ont vraiment plus déçu que d'autres choses. Kemet. En tout cas, on n'en parlera pas. Mais sinon, Eclipse aussi, deuxième édition. Apparemment qu'ils viennent vraiment corriger plusieurs trucs, mais je ne voyais pas en fait la nécessité de créer une deuxième édition. Prochainement, il y a Automobile de Martin Wallace qui va avoir une nouvelle édition. Je me demande qu'est-ce qu'ils veulent venir corriger. Des fois, j'ai l'impression peut-être que c'est aussi pour faire raviver la flamme. Puis c'est pas nécessairement que c'est plus facile de faire une réédition d'un jeu, mais je pense que c'est quand même un raccourci. Plutôt que de proposer un nouveau design puis de venir le playtester, on a déjà une base, on a déjà une fondation, puis après ça, on vient changer là, un peu l'esthétique là, de la maison à l'intérieur. Puis après ça, bon, ben, on dit, ben voilà, on a une nouvelle maison. Fait que c'est ça.
Des fois, c'est...
Oui?
Tu sais, des fois, c'est un petit peu des reprints cachés, qu'on pourrait dire.
Oui, oui, oui,
tout à fait. On veut le remettre au goût du jour. Mm-hmm. Tu sais, Puerto Rico qui a voulu faire ça avec une thématique un petit peu moins... ben, en fait, plus à jour, mais qui a eu bizarrement une production qui a chamboulé ça. Ça, j'ai trouvé ça toujours bizarre, des fois aussi, avec les thématiques, où est-ce que le monde... Tu sais, sincèrement, Puerto Rico, c'est quelque chose qui est arrivé tout de même. C'est quelque chose d'historique. Donc, je trouve ça bizarre qu'on veut... Tu sais, je sais bien que c'est pas une belle partie de l'histoire. Il y a du monde qui voit... Ben, ça, c'est un autre sujet, en fait, les thématiques qu'on ne peut pas jouer avec, là, que le monde appelle.
Mmh. Oui, tout à fait. Hey, messieurs, on a déjà fait notre 30 minutes. Pierre, en fait, avant qu'on ait à la conclusion, je voulais juste entendre un peu plus ton avis là-dessus. Fait qu'on va dépasser un tout petit peu là, à la maison, mais hérissez-vous pas le poil de jambe. Là, vous pouvez quand même faire ce que vous voulez. Mais Pierre, t'en penses quoi là, de tout ça? Est-ce que toi, justement, pour répondre à la question que Steve a lancée, est-ce qu'il y a des éditions, des rééditions qui t'ont interpellé davantage que le jeu initial?
Oui, j'ai été surpris de la réédition de Covadis. J'ai joué à Zovadis qui est sorti à l'automne de 2023. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce jeu-là était parfait dans ce qu'il était. Mais ils ont rajouté le grain de sel qui était juste ce qu'il fallait pour en faire un jeu parfait. Surtout en plus que maintenant, il se joue à deux joueurs de plus. Et c'en est un, justement, un jeu de négociation. Alors, ça m'a pas mal convaincu, je dirais. La réédition de Mare Nostrum, qui est un jeu fétiche à moi, est excellente aussi. Mais je sais pas exactement à quel point je pourrais délaisser la première. Parce que la première avait son charme aussi. Ouais. Il y avait des choses dans la première qu'on ne fait pas dans la deuxième, qui ont été recyclées dans d'autres façons d'arriver dans le jeu. La première avait quelque chose d'un peu plus vieille école, je dirais, mais c'était charmant quand même. Mais la deuxième est nettement mieux peaufinée, puis je pense que c'est vraiment la version supérieure.
Oui, tu marques un point, le charme en fait. Le premier jet... Comment?
Le petit cachet.
Le premier jet, en fait. Puis, en fait, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Mais souvent, ces rééditions-là sont faites parce que tu as des joueurs qui ont un peu étiré la sauce. Qui ont 50, 60, 70, une centaine de parties. Que là, ils commencent à voir les aiguilles dans la botte de foin là, en tant que tel, puis voir okay, qu'est-ce qu'on pourrait changer, parce que là, si telle situation arrive, là, on a un débalancement ou on a telle situation qui va émerger de ça, puis c'est pas super apprécié du public que ça l'attire. Donc, la question, c'est tout le temps de se dire jusqu'à quel point qu'on va jouer à nos jeux, puis qu'on a besoin d'une deuxième édition. Puis,
Oui. Ben, c'est peut-être un des cas les plus notoires de ça, c'est Steam, le jeu de Martin Wallace qui trônait dans les préférés des joueurs passionnés avant que Brass prenne toute la place. Il y a eu un temps où Brass était moins populaire et que c'était Steam qui était le jeu que Wallace était reconnu pour être son meilleur. Mais en fait, c'était pas Steam, c'était Age of Steam, qui était la première édition. Et ce qui est assez intéressant de ce cas-là, c'est que quand ils ont fait la réédition de Age of Steam, 8 ans plus tard, il y avait en fait le but d'en faire un jeu amélioré, mais ils ont frappé un mur. Les fanatiques d'Age of Steam, il y en avait vraiment, n'avaient pas aimé ce qu'il avait fait, Age of Steam. Et c'est un des rares jeux, Age of Steam, qui a connu une deuxième édition, et qui a connu une réédition de sa première édition. Et c'est la réédition de la première édition, finalement, qui l'a remporté sur les fanatiques du jeu.
Oui, parce que, en effet, puis justement, l'exemple qui me vient en tête de ce que tu parles là, ben, Martin Wallace avec tous ses jeux de train, on s'entend le même Brass avec Age of Industry. Si on regarde Age of Industry étant une réédition, réimplémentation de Brass, mais au final, celui qui a perduré dans le temps, c'est Brass. Martin Wallace, on dirait que c'est ça, ses rééditions s'entrechevauchent, c'est tout le temps un petit peu, c'est un casse-tête, suivre son processus à lui, tu sais. Mais je pense que somme toute, puis je vais reprendre l'exemple d'Eclipse parce que pour moi, ça a été vraiment, vraiment un espèce d'épiphanie, là. Quand Eclipse est arrivé en 2019 sur Kickstarter, la deuxième édition, elle était dispendieuse, est encore hors de prix, là, selon moi. Je veux dire, on paye quasiment 300 $ pour la boîte. Moi, j'avais déjà collecté en fait tout ce qui s'était fait d'Eclipse. Et là, le gros questionnement que j'avais, c'était est-ce que j'achète la deuxième édition? Et là, soudainement, quand je réalise que ben, j'ai même pas joué en fait avec la moitié des extensions, puis que la nouvelle édition, ben, elle n'allait pas utiliser ce qui était déjà dans les extensions, puis que je me rends compte qu'à un petit peu, j'ai même pas encore exploré le jeu au complet, j'ai pas encore été capable d'arriver aux conclusions qu'eux autres sont arrivés pour dire OK, il faut une deuxième édition pour venir éliminer telle situation. Puis encore là, certains points que je me dis, ben, est-ce que vraiment enlever un round, ça va permettre au jeu d'être supérieur ou on fait juste couper les coins ronds pour dire bon, ben, on va faire un round de moins pour que ça dure moins longtemps. Puis tous ces éléments-là, en fait, sont venus me faire comprendre, me faire réaliser que j'avais pas besoin de la deuxième édition parce que j'avais pas encore creusé la première édition comme il se fallait. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce
Oui.
que le marketing pousse pour qu'on aille chercher cette nouvelle édition-là, comme si on allait manquer quelque chose ou comme si la première édition manquait quelque chose ou
Comme
qu'elle
ça
était.
était plus bonne.
Ouais, c'est ça, périmé, mais on n'est pas dans une compagnie de lait, là, je veux dire.
Non.
C'est pas une poche de lait, je veux dire. Ton jeu tel quel, il est encore excellent. Puis le jour que toi, tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être des problèmes, mais ça va être dans 3 ou 4 ans parce que tu vas avoir joué à plein d'autres jeux. Puis à un moment donné, tu vas avoir tellement joué à celui-là que tu vas faire OK, attends un peu, il y a telle situation qui arrive, puis c'est des situations hyper pointues que là, tu es capable d'identifier OK, quand ça arrive. Mais encore là, on peut-tu appeler ça, on peut-tu juste dire que c'est du méta qui s'installe autour du jeu? Puis est-ce que le méta, c'est mal? Fait que voilà. Est-ce que là, on voit en fait Frank et La Flèche qui disent qu'ils viennent d'arriver en retard, puis qu'ils aimeraient ça qu'on. Ils ont pas de problème, ils le diront pas à Simon.
Ok. Mais c'est quand même un point important que tu soulignais. Tu sais, succomber à la deuxième édition, à la troisième édition, alors que l'édition actuelle qu'on a n'est pas brisée pour nous. Tu sais, c'est vraiment pour nous. Sinon, la vraie question du jour, quand est-ce la deuxième édition de Québec sort?
Exact. Oui, parce que
C'est la vraie question.
c'est ça. On parlait de ce. On a parlé de Québec la semaine dernière. Là, on en parle encore aujourd'hui. Québec. Là, tu avais dit qu'il n'y avait pratiquement rien de retouché, sauf le look du jeu, parce que le premier board était dégueulasse. Puis ça,
Selon qui?
selon Pierre, je
Ok.
redis ces mots.
Ok.
Mot pour
Ok.
mot, il avait dit mon board que j'ai fait dans Québec était dégueulasse.
Je dis ça, moi. Ah
Oui, tu as dit ça. Oh, oui,
ouais.
mot pour mot. Non, mais blague à
C'est mot
part,
pour mot,
blague à part,
en fait.
qu'est-ce explique-nous donc un peu le processus de réédition à travers Québec.
Oui, parce que bien sûr, il faut continuer d'en parler. Parce que les gens ne savent peut-être pas, mais dans le fond, Balado dit que c'est une émission juste faite pour promouvoir la reddition de Québec.
Tout à fait. Oui.
Quand est-ce que ça sort? Écoute, je serais bien en peine de dire la date précise. Tout ce que
Cette
je peux dire.
année ou l'année prochaine?
Bon, je suis pas mal sûr que ça va être cette année. Je suis pas
Ouh.
mal sûr que ça va probablement.
Fin de l'année, possiblement.
Fin de l'année, probablement, là, parce que c'est censé faire une campagne Kickstarter.
Ouh.
Donc,
ça va être dû pour 2026, quand ça va arriver. Hein.
Possiblement. Si la campagne Kickstarter se fait, il y a de bonnes chances, effectivement, que ça puisse finalement arriver au printemps 2025, mais sinon, ben là, ça peut
C'est-tu
pas...
toujours les mêmes éditeurs?
Non, absolument pas. C'est un éditeur allemand. C'est un éditeur allemand qui s'appelle Spielbox.
Spielworks.
Spielworks, excuse-moi, oui.
Avec 2X, pas 3X.
Avec... Voilà.
3X.
Oui, c'est ça. Ou plusieurs X.
OK.
Éditeur Spielworks, c'est un petit éditeur allemand qui s'occupe de faire des publier des jeux pour joueurs aguerris. Il fait presque jamais dans le jeu familial. Et il le sait. En fait, il est conscient de son public à cause de ça. Donc, il ne va jamais faire beaucoup de copies d'impressions de ses jeux. Conscient que c'est un public assez niché qui va acheter ça, donc ça ne sert à rien de faire des gros volumes. Mais il fait exception pour Québec. Et il fait exception aussi, il a fait exception aussi pour le dernier jeu qu'il a fait de Rosenberg. Le dernier jeu de Rosenberg